Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Je peux bien vous l'avouer, aujourd'hui, j'ai la banane. Certes, il faut me croire sur parole, puisque non seulement nous sommes à la radio, et en plus masqués, mais vous pouvez me faire confiance, j'ai la banane, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nos deux invités, Valérie Le Sor et Christian Heck, comédiens, metteurs en scène à multiples facettes, comme dit mon dentiste, s'y entendent pour ce qui est des masques qu'ils collectionnent, comme autant de personnages qu'ils jouent, imaginent et interprètent, et ensuite parce que toujours, ces personnages qu'ils jouent, imaginent et interprètent, font naître sur le visage des spectateurs la fameuse banane que j'évoquais à l'instant. D'un spectacle théâtral imaginé, organisé, interprété par ces deux-là, on ressort littéralement enchanté, émerveillé, amusé, consolé, rassuré, galvanisé, enthousiasmé et plein d'autres adjectifs en « et » que je vous laisserai le soin de compléter une fois que vous aurez à votre tour assisté. Est-ce à dire que c'est exactement le genre de projet qu'il nous faut en ce moment où le masque sert surtout à masquer nos désarrois? Oui, vous l'avez bien compris. Le sort en est jeté, Heck est parmi nous. Voilà le titre de cette émission et pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour, c'est Christian Heck et Valérie Le Sor. Nous sommes les invités d'Antoine de Gaulle chez Pop, Pop, Pop.
Bonjour Valérie Le Sor.
Bonjour.
Bonjour Christian Heck. Bonjour. Ça, c'est de l'intro, non?
Oui.
Enfin, c'est une autre en matière qui me semble absolument de circonstance et tonitruante.
Ça vous dérange pas si on parle comme ça tout le long de l'émission?
Pas du tout. Est-ce que vous pouvez faire toute l'émission à deux voix comme ça?
On s'est entraîné.
Attention, c'est un défi que je vous lance.
Non, c'est pas possible.
Bon. Je dis Christian Heck, mais je pourrais dire aussi clown loufoque et singulier parce que c'est ainsi que vous définit le Petit Larousse dans lequel vous avez récemment fait une entrée très remarquée, mon cher Christian.
Ben oui, j'ai eu droit à ces qualificatifs-là qui sont assez jolis.
Uh-huh.
Voilà.
Ça vous plaît?
Oui, ça me plaît. C'est un peu incomplet, mais ça me plaît.
C'est incomplet, mais ça résume quand même un petit peu.
Oui.
Clown loufoque et singulier.
Oui.
Vous êtes plus loufoque que singulier ou plus singulier que loufoque?
Oh, ça veut dire un peu la même chose. Quand on me dit que je suis singulier, je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être commun,
mm-hmm.
mais s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Mais moi, de l'intérieur, je ne suis pas singulier.
Vous vous trouvez tout à fait ordinaire?
Oui.
D'accord. C'est une définition de l'ordinaire qui me conviendrait parfaitement s'il était plus répandu. Quelle serait la définition du Petit Larousse pour vous, Valérie Le Sor, qui est à la fois plasticienne, auteure, comédienne et metteuse en scène?
Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut la demander. On va dire peut-être couteau suisse sur pâte.
Couteau suisse sur pâte. D'accord. Plus singulière que loufoque, donc.
Christian, plus singulière que loufoque? Moi aussi, j'ai l'impression d'être tout à fait normal.
Oui, c'est ça. Vous avez l'impression tous les deux d'être parfaitement ordinaire. Hein, on est
oui.
bien d'accord.
Oui, oui.
D'être tout à fait dans la norme, rien qui vous distingue en particulier.
Ce qui nous distingue, c'est qu'on fait ce qu'on aime.
Oui.
C'est pas le cas de tout le monde.
Oui, mais ce que vous aimez est quand même assez original, assez excentrique, assez hors norme, non?
On a envie de s'amuser.
Oui, voilà.
On chasse l'ennui.
Voilà.
Et on a envie de faire du merveilleux et de ouais. voilà et de réjouir les gens.
De vous amuser, de réjouir les gens, de faire
oui,
du merveilleux.
L'ennui est vraiment un ennemi terrible pour nous.
Bon, on va essayer de pas s'ennuyer pendant cette émission, je vous le promets, je vais faire tout mon possible. Christian, vous avez dit aussi le mot clown exige d'être pris avec des pincettes. Parce que clown, c'est très réducteur, c'est comme la marionnette que vous pratiquez et que vous adorez d'ailleurs. Et ça peut parfois avoir un côté péjoratif
oui,
pour beaucoup.
Pour le tout public, c'est des noms qui sont... qui résonne un petit peu de manière péjorative parce que c'est souvent mal représenté.
Mm-hmm.
Des bons clowns, il y en a pas beaucoup.
Ouais.
Et quand on dit marionnette, pour le commun des mortels, on pense au guignol, que je ne dénigre pas,
ouais, ouais.
mais ce côté un peu simpliste, et c'est pas simpliste du tout,
mm-hmm.
quand on approfondit ces arts-là. Clown, il n'y a rien de plus difficile au monde,
mm-hmm.
c'est-à-dire que quand on se veut clown, on rentre sur scène et on n'a pas le choix que de faire rire.
Ouais, ouais.
Alors que quand on est un comédien, ouais. on peut surprendre à un moment donné à faire rire, mais on n'a pas cette obligation-là.
Et vous, Valérie, ce sont notamment les marionnettes qui vous fascinent. Nous allons parler avec le voyage de Gulliver de ces fameuses marionnettes, de votre adaptation à tous les deux du conte philosophique de Jonathan Swift. C'est un spectacle qui sort à découvrir à la télé du 11 au 28 janvier 1922, avant une tournée un peu partout en France.
au cours de l'année. Mais avant d'en parler, je vous propose d'écouter un morceau, car quand je vous vois tous les deux, eh ben je pense à Sonny and Cher. Ne me demandez surtout pas pourquoi, et en particulier à cette chanson, I Got You Babe.
But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
I Got You Babe, le morceau qui me fait penser à Valérie Lesseur et Christian Eck, nos invités pop du jour, c'était Sonny and Cher, évidemment, vous l'aurez reconnu. Ça vous évoque quelque chose?
Bah, oh. Moi, je suis contente que vous ayez pensé à ce morceau. Ouais. Il est joyeux et il est romantique, comme nous.
Oui. Christian, c'est un petit oui quand même.
Ah, si, non.
Oui. Ouais, c'est vrai que t'as pas l'air hyper motivé quand même.
Si. C'est le romantisme qui m'a le plus touché, parce que ça nous représente bien. Parce qu'on a la chance. J'ai la chance d'être en couple avec Madame Valérie Lesseur,
ouais.
Et puis de découvrir au fur et à mesure de notre vie commune qu'en plus on avait la chance de pouvoir travailler ensemble.
C'est-à-dire que vous ne vous quittez pas.
Voilà.
C'est ça.
7 sur 7, nuit et jour.
Oui.
Et ça tient.
Une sorte de confinement éternel.
Et ça tient.
Et ça tient. Oh, ça tient bien. Ouais.
Je trouve ça tout à fait admirable. Valérie Christian de la Comédie Française, pardon.
S'il vous plaît.
Ajouter, oui. Voilà une association qui a produit plein de magnifiques bambins depuis 2015, depuis votre adaptation de 20 000 lieues sous les mers jusqu'à ces voyages de Gulliver qui vont démarrer la semaine prochaine et dont nous allons parler dans quelques instants, en passant par le cabaret honorifique, mais aussi l'opéra avec Hercole à Mantes. 8 créations en quelques années, au point que Eck le sort est devenu une marque d'une certaine manière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore votre travail, quel pourrait être le point commun entre toutes ces créations, Valérie, Christian?
Tout public.
Mmh. Ouais, c'est ça. Je crois que le lien, c'est vraiment le visuel.
Ouais.
Et le visuel mène justement au tout public.
Mmh. On essaye que ce soit le plus compréhensible possible. On chasse le flou, on veut que ce soit le plus
le plus limpide possible. Parce que souvent, quand on va au spectacle, il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Mm-hmm. Et c'est, ça nous énerve. Parce qu'on est plutôt simple. Nous sommes plutôt simples.
Ouais, ordinaire, hein, vous avez dit tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Oui, tout à fait ordinaire.
Et donc,
presque ennuyeux.
Donc, à la limite de l'ennui, oui.
N'est-ce pas?
Et donc, on essaye de faire des choses simples, mais qui, en même temps, elles sont compliquées à faire. Parce que la simplicité est une chose qui est difficile à...
Ce qui est plus difficile.
Oui, le fil rouge, c'est le compliqué. Ça, c'est vrai que on n'y va pas de main morte.
Alors, parce que je ne sais pas si vous êtes des individus ordinaires, mais en tout cas, vous attaquez à des auteurs qui, eux, ne le sont pas. Jules Verne, Molière, le thème du Grand Guignol, Georges Langlan, hein, l'auteur de La Mouche qui avait été adapté par Cronenberg au cinéma, Swift, Jonathan Swift, aujourd'hui. Qu'est-ce qui guide vos choix d'adaptation? À partir de quel moment vous vous dites, tiens, on va travailler là-dessus? Pour le rendre plus limpide?
On aime bien s'attaquer à des œuvres qui ne sont absolument pas théâtrales. Bon, à part, par exemple, Le Bourgeois Gentilhomme, ça c'était une commande.
Oui, il y a deux choses. Les opéras et Le Bourgeois Gentilhomme, ça c'est des commandes. Mm-hmm. Et puis, à côté de ça, il y a nos textes, nos adaptations propres.
Après, on choisit les œuvres aussi parce que, vu que je suis plasticienne, on aime bien y rajouter ou de l'horreur ou des marionnettes ou des effets spéciaux. Et je pense qu'on choisit aussi beaucoup par rapport au jeu de Christian. Parce qu'on y intègre énormément de mouvements. Tous nos spectacles sont très chorégraphiés, il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Mmh. Donc c'est aussi par rapport à la capacité de Christian de bouger et de vivre ses personnages.
Christian, vous allez me dire que votre jeu aussi est tout à fait ordinaire, il n'a rien de singulier, c'est ça?
Non mais... Je ne sais pas quoi répondre, je ne me suis jamais regardé jouer, ou en tout cas je n'ai pas le regard objectif sur
ça. Alors moi je vous ai regardé jouer, moi je vous ai vu jouer plusieurs fois, vous êtes un concentré d'inventivité, d'invention, de surprise. On ne sait jamais ce qui va se passer avec vous quand on vous voit sur scène.
Le contre-pied.
Le contre-pied, oui.
Le contre-pied, c'est une...
Mais ça, vous le savez, vous, très précisément. Tout réglé...
Je ne puis l'expliquer. C'est une sorte de déformation de l'esprit, de vouloir toujours surprendre. Et ça m'est difficile de faire autrement. Ouais. Je ne l'ai pas appris. C'est une chance que... Je suis comme ça, voilà.
Est-ce que ça pourrait être ce que vous appelez, je ne sais plus lequel de vous deux en a parlé, la fameuse douche émotionnelle, c'est-à-dire cette manière de passer brutalement du rire aux larmes, des larmes au rire.
Oui.
C'est ça aussi que vous cherchez, le point commun, peut-être.
J'adore cette alternance entre les deux. Mmh. Et en général, comme on ne peut pas se passer de l'humour, c'est impossible pour nous. Ce qui nous fait le plus rire, c'est quand c'est c'est qu'il y a un effroi et une horreur et un drame derrière cet humour. Ouais. Et sans ça, c'est un simple jeu. Le jeu de mots, par exemple, pour moi, c'est le bas de gamme de l'humour. Mmh. Et donc, puis après, ça augmente. Il y a le comique de situation. Et pour nous, le drame humain, rire de ça, c'est le meilleur pansement pour ce que nous sommes en train de vivre.
Et c'est quelque chose qui vous accompagne aussi dans la vie, hors métier?
Bien
sûr. Pouvoir basculer comme ça, d'en pleurer.
C'est vrai que c'est un dénominateur commun dans nos spectacles, ça. Même dans Le Bourgeois Gentilhomme, on n'a pas voulu en faire un pauvre maigre. Enfin, on a voulu qu'il soit mignon et qu'on s'y attache. Et ensuite.
Il est attachant, Jourdain.
Il est très attachant, ouais. Et ensuite, cette humiliation, finalement, était très, très drôle à la fin, quand il y a toute la scène des Turcs. Mais en même temps, ça crève le cœur. Ouais. Et ça, c'est vrai que dans La Mouche aussi, on a ça. Enfin. On essaie d'intégrer ça dans tous nos spectacles.
C'est une base. Ça, c'est le comédien qui parle. Quel que soit le rôle, même si on fait un très méchant, c'est délicieux de jouer les ordures. Mais il faut toujours on se bat toujours, nous comédiens, pour qu'il soit sauvable, pour qu'on ait de l'empathie pour lui. Mm-hmm. Sinon, le message passe pas, je trouve. Ouais.
Et Christian, avec Valérie Le Sort, en fait, cette douche émotionnelle dont je parlais, moi, ça me semble très, très lié à l'enfance. Vous vous souvenez du guignol qu'on a tous vu quand on était môme, quoi, qui vous fait peur, qui d'un seul coup vous fait rire, vous surprend, voire évidemment le grand guignol avec lequel vous vous êtes amusé, en tous les cas pour jouer avec les codes du genre, avec ce spectacle cabaret horrifique. Il y a ça, il y a ce sentiment d'enfance aussi qui est très présent chez vous.
C'est
un outil de travail extrêmement important. Si notre enfant s'en va, on perd notre art. Mmh. Moi, j'ai l'impression que tout ce que je suis en train de faire maintenant, ce sont des rêves d'enfant. Mmh.
C'est pas des rêves que j'ai eus maintenant. C'est des rêves qui sont anciens. À une époque où l'esprit il est plus tendre, où il n'est pas pollué par la politesse, par le savoir-vivre, par toute une sorte, toute cette amalgame de choses qu'on nous apprend, quand il est tendre et quand c'est là où il est le plus sensible, où les capteurs sont les plus ouverts.
D'ailleurs, c'est un retour qu'on a beaucoup, ça, des spectateurs, ce retour à l'enfance, les gens qui ont l'impression d'être retombés en enfance pendant une heure et demie. Oui. On joue beaucoup avec ça.
C'est la raison pour laquelle on parle de spectacle tout public.
Tout public,
c'est-à-dire que ça plaît aux jeunes et ça rappelle aux moins jeunes qu'ils ont été jeunes.
Alors juste pour finir, avant que Charline nous rejoigne, et pour bien comprendre avoir le mode d'emploi du couple Le Sort-Eck, vous êtes un couple, un duo, une association de talents, tous les deux comédiens, metteurs en scène, marionnettistes, plasticiens, et en plus, vous mélangez les genres, c'est-à-dire vous passez de la comédie à la fable sociale, au récit d'aventure, à la tragédie lyrique, la comédie ballet, la comédie musicale ou l'opéra comique.
Comment... Et l'horreur aussi.
Et l'horreur. Comment s'organise votre travail? Qui fait quoi? Qui décide de quoi? Comment ça s'organise, ce duo?
On n'a pas des rôles très définis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions entre nous. Moi, j'ai beaucoup d'idées un peu impossibles à faire. Christian a un sens du plateau inné, donc il ramène ça un peu au théâtre. Et ça se passe entre nous deux, c'est-à-dire qu'il peut avoir lui peut avoir des idées visuelles et moi je peux avoir des idées vraiment purement dramaturgiques. Donc c'est pas vraiment défini entre nous.
Non, peut-être que je suis un peu plus... Je veille un peu plus sur la faisabilité, alors que Valérie, elle rêve
une machine.
À tout va. Ouais. À tout va. Et moi, je suis un peu le censeur, mais ça, c'est impossible à faire.
Heureusement que je n'écoute pas toujours.
Voilà, chers amis auditeurs, ce qu'on appelle un couple tout à fait ordinaire, pour reprendre l'adjectif que vous utilisiez en début d'émission, Christian. On va maintenant parler avec Charline de votre mise en scène des voyages de Gulliver, le malheureux naufragé qui est tantôt géant chez les Lilliputiens, tantôt minuscule chez les géants. Mais avant ça, un petit peu de musique avec Arlo Parks, Too Good.
The bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show. To pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Too cool to show it. Baby, so good.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et nous parlions tout à l'heure de Molière et du bourgeois gentilhomme avec Valérie Lesseur et Christian Heck, nos invités d'aujourd'hui venus parler des voyages de Gulliver qu'ils s'adaptent au théâtre. Et c'est à ce moment-là que Charline Rouve a choisi pour faire son entrée.
Ah bah moi, dès qu'on dit Molière, je suis là.
Avec cette magnifique coupe, très très grand siècle. Alors Charline, je vous présente Charline Lesseur et Christian Heck, qui viennent donc nous parler de Gulliver.
Valérie, Charline, c'est moi.
Oui, pardon. Ce voyage n'a pas encore commencé, mais comme vous venez du futur, j'en veux pour preuve cette étrange coiffure qui n'en semble rien connue, que pouvez-vous nous en dire, s'il vous plaît ?
Gulliver a survécu un terrible naufrage et s'éveille sur le rivage. Il est rapidement assailli par de petits êtres suffisamment vivaces pour le saucissonner et le faire prisonnier. L'empereur voudrait immédiatement exécuter le fâcheux, mais l'impératrice Kashasa se dit qu'un géant pourrait bien être utile aux Lilliputiens. Et voilà donc Gulliver, observateur de ce petit peuple passé si différent du sien. Sur scène, un Gulliver à taille humaine, entouré d'Lilliputiens incarnés par des comédiens marionnettes hybrides, tête humaine, corps de marionnette. De fait, est-ce que le critère premier pour le casting, pour la troupe, c'était l'hyper-expressivité et la coordination ?
Alors, il y avait plusieurs critères. Il y avait déjà, il faut être sacrément sympa pour accepter de jouer là-dedans.
C'est le meilleur critère.
Parce que c'est vraiment galère. C'est-à-dire qu'on rampe, on doit bouger les décors, on est toujours penché, parce qu'en fait, on a des marionnettes autour du cou, et on doit rentrer dans un trait de lumière,
un faisceau lumineux,
et on ne doit jamais rentrer ses propres épaules, donc c'est très difficile corporellement. Mm-hmm. On manipule sans arrêt des choses. Donc voilà, déjà le premier critère, c'était sympa.
Pas de scoliose.
Talentueux, pas de scoliose, quand même savoir bien bouger, avoir un sens du rythme.
Et c'est vrai que l'hyper-expressivité est permise. Souvent
il faut,
au théâtre,
parce qu'il nous reste qu'un petit
souvent en théâtre, on nous dit « Oh là là, là tu en fais trop ». Avec la marionnette, le corps d'une marionnette, elle peut faire des choses extraordinaires. Mmh. Elle a une souplesse que nous n'avons pas. Elle peut exécuter des mouvements à une vitesse que notre inertie, de par notre poids, on ne peut pas exécuter. Ouais. Du coup, ils ont ces marionnettes ont un corps fantastique.
Oui, mais il y a une dissociation totale.
Non, parce qu'ils la manipulent eux-mêmes.
Oui, mais c'est ça. Mais vous, comédien, pendant que vous jouez, c'est vous qui manipulez la
marionnette. Oui, on peut être aidé par. On peut être aidé par quelqu'un.
Ouais.
Mais l'hyper-expressivité du corps demande même que les visages soient hyper expressifs. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une faute d'orthographe que d'être hyper expressif. Oui. Alors que au théâtre, si on le fait en acteur normal, c'est un peu trop. On rentre dans le rouge, c'est trop gros.
Enfin, on doit pas bouger son propre corps. C'est ça qui est difficile. Il y a une vraie dissociation quand même.
Oui. Oui, mais le rythme.
Merci Valérie.
Merci. Ah oui, j'avais pas compris en fait.
Ben oui, t'as pas écouté.
Il faut pas être monotache, on va dire.
Voilà,
c'est les coordonnées.
Alors, le voyage de Gulliver arrive après La Mouche, 20 milieux sous les mers, Le Bourgeois Gentilhomme et les opéras, Ercole Amante et Le Domino Noir. Pourquoi avoir choisi un conte de Jonathan Swift cette fois-ci? C'est Valérie
qui
la montre du doigt en disant c'est elle.
Ouais, c'est son idée au départ.
Oui, c'est moi qui ai écrit l'adaptation. Pourquoi ? Bah parce que, encore une fois, c'est parti du fait qu'on aime beaucoup les marionnettes hybrides. Mm-hmm. Qu'avec Christian, on avait déjà fait, on a fait des petits épisodes pour Canal+, qui s'appelait Monsieur Herc TV.
Ouais,
on avait déjà utilisé ce procédé. Lui, il l'avait utilisé aussi avec Philippe Gentil.
Je l'ai découvert avec Philippe Gentil. Mm-hmm. C'est lui qui m'a fait découvrir cette technique.
Donc voilà pourquoi. Après, moi, je trouve ce texte vraiment formidable, hyper moderne, quand même très drôle. Mm-hmm. Enfin, ça a été écrit en 1722, tout est en 22.
Paf.
1722.
C'est France Inter. France Inter, quand même.
Oui, c'est vrai. Et il y a des choses extrêmement, extrêmement drôles. Puis ça parle de tolérance, ça parle de guerre. Donc évidemment, l'humain n'a pas changé depuis. Mm-hmm. Et il y avait vraiment moyen de rire avec ça. Après, j'ai rajouté beaucoup de rôle féminin, parce qu'évidemment la femme là n'existait pas beaucoup à cette époque-là, il n'y en avait pas.
Il n'y avait pas de femme.
Il n'y avait pas de femme, elles n'existaient pas encore.
Ah bah c'est écrit dans les bouquins d'histoire, on arrive bien à
ça. Ça vaut le coup quand même d'expliquer pourquoi deux peuples font la guerre.
Ah oui, et ce qui est très comique, c'est que, merci Christian, c'est gentil.
Ah c'est ça le couple, hein. C'est ça la vie de couple.
J'aurais aimé qu'il me fasse du mime.
Ah ben non, on est à la radio.
Alors c'est la guerre entre deux peuples, c'est les gros boutiens et les petits boutiens. Mmh. Ils se battent en fait parce que les petits boutiens ouvrent leurs œufs à la coque par le petit bout, les gros bouts tiens par le gros bout. Et ils se font une guerre.
Deux écoles.
Mais sans pitié à cause de ça.
Heureusement, c'est vraiment de la fiction, ça n'arriverait jamais de
Mon Dieu.
Mais alors, vous disiez, Christian, vous, de 20 milieux sous les mers, que ça avait été un prétexte pour parler de science. La Gulliver, c'est une satire. Elle vous permet de parler, de brocarder quoi? Est-ce que c'est un prétexte ou est-ce qu'on y va tout droit?
Pour parler de science?
Non,
j'ai 20 milieux.
J'ai encore pas compris la question.
20 milieux.
Dissocié.
20 milieux sous les mers, vous en aviez parlé comme d'un prétexte pour parler de science.
Oui.
Là, en l'occurrence, Gulliver, c'est un prétexte.
Et
pour
on a fait un autre spectacle qui s'appelle La Mouche.
Qui était aussi très inspiré de téléportation,
où aussi on y mettait de la science.
Donc là, sur Gulliver, quel est le prétexte? Je vais y retourner à chaque fois.
Comme je ne comprends pas bien la question, je brode. C'est comme ça qu'on fait, non?
Je brode. Hymne à la différence, sur la tolérance. Voilà.
Bon, vous avez donc...
On cède.
Tu vois ça? C'est parfait.
J'arrive. Vous avez donc choisi de vous concentrer sur l'épisode qui se déroule à Lilliput. Dans le roman de Swift, cette aventure décrit donc la haine qui oppose les gros boutistes, les petits boutistes, dont nous parlions à l'instant, au sujet donc du bout par lequel on doit entamer les œufs à la coque. Autrement dit, une haine totalement absurde. Je reformule la question autrement, Christian. Qui sont les gros boutistes? Qui sont les petits boutistes aujourd'hui?
Voilà,
nous y sommes.
Ça j'ai compris.
Voilà.
Je suis content qu'elle soit pour toi. Celle-là.
Eh bien, comme je suis belge d'État et de nationalité, je vais dire que les gros boutistes sont les Flamands et les petits boutistes.
Bien joué.
Ce sont les francophones.
Bien joué.
Les Wallons. Pas mal.
Très
pas mal.
Bravo.
Reçu.
Valérie, vous dites trouver un côté insolent aux marionnettes. Alors, est-ce qu'elles sont le support idéal pour justement mettre en scène un pamphlet ou au contraire, comme pour l'expressivité des visages, il faut tout redoser pour pas basculer dans une forme de trop-plein?
Je suis content que c'est pour toi.
Il y a un caractère très insolent aux marionnettes.
Ben, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur faire faire et faire dire des choses qu'on n'oserait pas avec un corps humain normal. On peut aller très très loin dans l'insolence. Que dire, Christian, t'as pas quelque chose à dire?
Ben, c'est exactement ça, le déguisement, le masque ou la marionnette. Tous ces trucs qui permettent de se transposer nous donnent une insolence, nous permet une insolence beaucoup plus grande. Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, puis il y a une tendresse aussi chez ces marionnettes. Enfin, là, moi, quand je vois le spectacle, là où il en est maintenant, ça me fait
qui
vraiment penser...
Prêt, puisqu'il il démarre la semaine prochaine.
Bien sûr. Tout à fait, il est tout à fait prêt.
Regardez-moi dans les yeux, Valérie.
ça me fait vraiment penser au Muppet Show. C'est Gulliver, c'est l'invité du Muppet Show. C'est une gentille victime pacifiste qui est là et qui s'en prend plein la tronche par ces petits êtres.
Ouais.
Qui, et puis, vu qu'ils sont petits, ils n'osent pas trop les bousculer et ils se laissent un peu faire. Mais... Donc, c'est tendre.
Non, vous avez raison, c'est tout à fait ça. Ouais. Exactement, le monde de Jim Henson.
Et vous dites aussi avec Gulliver que son but est de faire grandir les petits et retomber les grands en enfance. Est-ce que vous avez une formule magique pour ça? Ça nous intéresse.
Eh ben, je ne sais pas. Visiblement, nos spectacles font cet effet-là. Oui. Donc, on en est ravis.
Mais c'est
du grand divertissement.
Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur l'outil indispensable qu'est l'enfance. Et c'est une période très précieuse. Et c'est là où on fait les plus beaux rêves.
Et puis dans
on retrouve ces rêves, je trouve que c'est les rêves les plus pleins. Voilà.
C'est vrai.
Il y a un double niveau de lecture. En tout cas, de la façon dont je l'ai écrit, je pense que c'est marrant d'ailleurs. Je pense que les enfants vont pas rire forcément. Là où les adultes vont rire.
On va aller vérifier ça dès mardi. Les voyages de Gulliver au théâtre par Valérie Le Sœur et Christian Eck, c'est à partir de mardi prochain, c'est à Paris.
Oui.
À quel théâtre?
L'Athénée.
Voilà, Athénée. Ça, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Et puis après, en tournée un peu partout en France. On va continuer à en parler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Mais pour le moment, il est 16h33. Ça veut dire que c'est l'heure des Pop News.
Faisons connaissance dans le film d'animation Vaillante d'une nouvelle héroïne très particulière. Elle s'appelle Georgia Nolan et elle rêve d'être pompier comme son père. Mais voilà, on est à New York en 1932.
Tu sais pourquoi on dit un pompier et pas une pompière?
C'est une énigme.
Non, c'est parce que les filles n'ont pas le droit de devenir pompier. C'est contre le règlement.
Les filles peuvent pas être pompiers, mais bien sûr.
Bonjour.
Je veux dire, bonjour, il y a quelqu'un?
papa.
T'es un des volontaires ? Est-ce qu'on se connaît ?
Et oui, ils se connaissent, puisque Georgia va se déguiser en garçon pour intégrer l'équipe. À elle, l'aventure, elle est doublée en français par Alice Paul et son pompier de papa par Vincent Cassel et Vaillante de Laurent Zetoun et Théodore Tiss. Ce sera le 2 février au cinéma.
À tous les futurs bacheliers, étudiants ou tout simplement passionnés, connaissant cependant quelques lacunes en philosophie, voici vos nouveaux professeurs.
Je demande aussi, voulez-vous bien discuter de la musique par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du compte... Non ?
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser, menu.
La philo selon les tontons flingueurs, c'est le titre du livre de Marc Lemonnier qui vous permettra d'aborder des chapitres comme Michel Audiard, Spinoza des comptoirs, Les tontons, miroir de nos âmes, Le Mexicain, disciple de Montaigne et Hobbes, ou encore Le banquet platonicien des voyous. Et la philo selon les tontons flingueurs, ça sort aux éditions de L'Opportun le 12 janvier.
Moi quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile.
Fin d'un jeu entre un chat et une souris, je vous laisse deviner qui est qui, entre Eve et Villanelle, l'agent du MI6 ou la tueur à gages psychopathe. La quatrième et ultime saison de Killing Eve se dévoile dans un teaser du genre survolté.
Do you ever think what might have happened if we hadn't done what we did? People like us aren't made for happy lives with happy endings.
Les gens comme elles sont-elles faites pour avoir une vie heureuse ou avec une fin heureuse ? Réponse très bientôt puisque le coup d'envoi c'est le 28 février sur Canal+.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'est vous.
Ben voilà, c'est moi. Pour aujourd'hui, c'est moi. Pour de bon. Merci Charline. Valérie Lessort, Christian Eck. Replongeons dans votre univers et reparlons un petit peu de ce Gulliver qui arrive sur une scène parisienne à l'Athénée à partir de mardi prochain. Alors, c'est une adaptation qui est une libre adaptation du roman de Jonathan Swift qui date, rappelons-le, de 1726.
Non, 22.
Ah, c'est juste pour voir si vous étiez attentif. Bravo, bravo. Mais non, c'est 1726. Qu'est-ce qu'il dirait Jonathan Swift s'il découvrait votre travail aujourd'hui ?
Ah, on ne sait pas encore. On saura mieux mardi prochain. Mais je crois qu'il serait... En général...
On ne trahit pas les auteurs.
On essaie de ne pas trahir les auteurs. On ne se met pas en avant. On essaie vraiment de respecter ce qui est écrit. Mmh. Et bon, après de le remettre un petit peu au goût du jour, mais pas forcément...
On recolorise un petit peu.
Oui. C'est tout. Mmh. Mais on ne le modernise pas non plus complètement.
Alors Swift, qui, rappelons-le, dans sa modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public, suggérait de simplement les manger, hein, dans un essai célèbre. Est-ce que l'humour de Swift aurait autant ou va avoir autant de succès ces jours-ci, à votre avis ?
Oh, je pense que oui, ouais. Il y a quand même des scènes. Et il y a des scènes très scatologiques aussi, j'étais très, très étonnée. Et ça marche toujours,
ouais.
Par exemple. Oui.
Oui, quoi ?
Oui.
Ah, Christian fait des grands signes.
Mais je crois qu'il l'approuve sur l'humour scatologique.
Non, parce qu'on les a supprimés, c'est
oui,
ça.
Ah, mais c'est peut-être pour ça. Mais elles étaient écrites. Non, parce que c'est difficile.
J'ai parlé d'un rire de qualité.
Ouais. C'est pas incompatible.
On n'a pas tout supprimé, c'est pas
du
vrai.
Du coup, on les a supprimés.
Non, l'humour de Swift.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des scènes scatologiques.
Vachement osées.
Très osées. Mais ce qui est intéressant, c'est. Par exemple, à un moment donné, je peux le dire, puisque.
Allez-y.
La scène, elle n'y est plus, mais à un moment donné, il y a quand même Gulliver qui fait une grosse affaire parce qu'il doit faire. Mm-hmm. Hein, et c'est la démesure de ce qu'il a fait.
Ouais.
Avec ses petits aides qui découvrent l'énorme étron qu'il a fait, même si on ne montre pas la chose, mais
ouais, ouais.
C'est de regarder, voir à travers le regard de ces petits lilliputiens l'horreur multipliée par la taille.
Et surtout qu'ils viennent avec des petites brouettes ramasser tout ça. Ouais. Aussi.
C'est toujours une question de proportion.
Valérie Lessard, Christian Eck, votre actualité, c'est aussi le beau livre, que dis-je, le très beau livre, Jouer, point d'exclamation. Alors, deux questions. Est-ce que c'est une invitation ou une injonction? Et est-ce que, de manière générale, vous nous trouvez assez peu joueurs dans la vie?
Donc, c'est un infinitif, hein, jouer avec ER.
Oui.
Mais avec un point d'exclamation.
Oui, donc tout reste ouvert.
Voilà. Mm-hmm. Et est-ce qu'on est assez joueur dans la vie?
Non.
Jamais?
Bah, en tout cas, en ce moment, pas vraiment, je trouve. Je pense que le titre est venu aussi... c'est Fabrice Robin, hein, le photographe
qui a, ouais. c'est son
qui
idée.
A trouvé le titre et on le trouvait formidable. Non, justement, c'est ça, c'est une injonction à s'amuser, à être libre et à... Ouais, un peu lâcher, quoi. Mmh. Et juste s'amuser comme des enfants, ouais.
C'est un livre qui met de très belles photos de comédiens en costume, des photos de Fabrice Robin, donc, juste avant d'entrer en scène, au moment où ils en sortent, en regard de vos explications sur vos mises en scène. C'est des photos magnifiques, mais est-ce que c'est frustrant de figer des créatures autant faites pour le mouvement ?
Bah, le talent de Fabrice, c'est justement pour ça qu'on adore travailler avec lui, c'est que... Il prend, même si c'est figé, il arrive à trouver le caractère et du personnage et l'état d'esprit du comédien à ce moment-là. Je trouve que ça reste extrêmement vivant.
Ouais.
Et vu qu'on travaille avec des gens extrêmement talentueux, que ce soit les plasticiens, les costumières, de voir tout ce travail, parce que finalement on travaille avec la même équipe et on grandit tous ensemble depuis 6 ans maintenant, c'est aussi un hommage au travail qui est fait du petit détail, de choses qu'on voit très loin, des marionnettes ou du costume. Donc, moi, je trouve ça extrêmement vivant. Puis, on voit aussi ce qui se passe dans les ateliers. C'est rare de voir l'avant, l'après.
Les corps de métier.
Ça rend hommage à tous les corps de métier parce que on travaille vraiment, vraiment main dans la main avec toutes nos équipes.
Et c'est d'ailleurs ce que vous dites dans l'avant-propos. Hein.
Oui, et puis juste pour compléter ce que tu dis, effectivement, il y a des détails qui, dans les grandes salles, on n'a pas la chance de voir, sur ces photos, on peut vraiment les apprécier.
C'est ce que je viens de dire.
Oui, mais tu ne l'as pas dit assez
différemment.
Bien. Différemment. Ah,
ouais. Oui, mais est-ce qu'on peut voir aussi ce livre comme un hommage à la troupe, dans tout ce qu'elle a de plus noble et qu'est-ce que ça signifie pour vous, la troupe, et de vivre en troupe ?
Mais de toute façon, j'ai l'impression que dans nos spectacles, c'est peut-être ça qui fait du bien, c'est qu'on retrouve cet esprit de troupe, on retrouve aussi cet esprit de fait main, c'est très artisanal. On met pas de vidéo, on essaye de tout créer à la main, donc tout le monde participe et ça va de l'habilleuse au machiniste. Enfin, on est très, on travaille tous ensemble quoi, à l'ancienne.
On a le sentiment aussi quand on feuillette les pages de ce livre de voir des personnages de cirque un peu monstrueux qui pourraient sortir d'un film comme le Freaks de Todd Browning ou bien le Nosferatu de Murnau, hein, je pense à votre personnage en particulier. Vous respectez bien la démarcation entre la ville et la scène dans votre vie de tous les jours tous les deux ? C'est une question un peu personnelle.
Je crois que tout se mélange maintenant. En tout cas, on aime bien les monstres. Et
La laideur est une source d'inspiration.
Ouais, on n'a que des amis très laids.
Ah oui.
Ils se reconnaîtront et vous les embrassez, évidemment. Non,
c'est vrai, par exemple, quand on a écrit l'adaptation de La Mouche, qu'on était devant l'ordinateur et qu'on était en train d'écrire le texte, en même temps, on faisait des essais dans le salon. Je faisais des essais... par exemple Valérie à côté de moi comme je devais me transformer en mouche, on dit mais comment je vais me transformer en mouche rapidement puisque j'avais peu de moments où j'étais pas sur scène et commencer à me mettre des élastiques autour du visage pour faire ressortir des bouts de peau enfin donc c'est tout le temps.
La photo est assez géniale d'ailleurs dans le film avec les élastiques.
C'est dans le regard des enfants que là on voyait quand même qu'on n'était pas normaux.
Là, c'est vrai que peut-être qu'on n'est pas comme tout le monde.
Ah, ben
je réfléchissais pendant un bout de temps.
Nous y sommes.
Je crois que les auditeurs l'auront déduit d'eux-mêmes. Le voyage de Gulliver, votre spectacle est à voir à l'Athénée du 11 au 28 janvier avant une tournée à travers la France jusqu'en mai 2022. Et toutes les dates sont évidemment sur la page de l'émission. Valérie Le Sort, Christian Eck. Dans la suite de Pop, nous parlerons de...
C'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye.
Je me réveille avec entrain. Je branche la cafetière électrique.
Alors vous cherchez le secret. Mais en vain.
De Brigitte Fontaine, de Blanche Gardin, de Hugh Jackman, de Christiane Bell et de Pop Culture. Tout ça, ce sera après un petit morceau de Jacques.
«
Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer. Chaque chose qui se passe ne fait pas un souvenir. Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire. C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler. Les voisins se disent bonjour et les chiens se laissent promener. Je suis content quand il se passe rien. Au moins il se passe rien de mal. C'est pas ce qu'on voit aux infos. C'est la vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en vrai, n'a-t-on pas intérêt à faire ce qu'on fait? Au fond, je sais, mais chaque fois j'oublie. Il n'y a rien de plus vital que le vide de tous les jours.
Voilà le message que nous délivre le musicien Jacques. Vous écoutez Papa Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ce son, c'est ce qui vous évoque la... C'est ce qui vous évoque la pop culture, Christian Heck.
Bon, on a parlé de rire de qualité, je ne vois pas...
C'est le son que vous avez choisi. Expliquez-nous ce choix ordinaire, vous allez me dire encore.
Oui, on ne peut plus ordinaire, vous en conviendrez. Alors, c'est parce que je dois bien avouer, moi qui ai développé et qui ai essayé de définir ce que c'est que le rire, un rire de qualité, ouais. Eh bien là, le paix, ça me fait rire.
Oui.
Voilà.
Ça nous fait tous rire. Hein.
Voilà. Et bien, il faut le dire. Il faut le...
Oui. Ah ben, oui, non. Là, c'est involontaire. Si
on peut le remettre encore et encore.
Oui.
Ça fera toujours.
Oui, oui. Non, non, dites pas ça. Non. Vous, Valérie, le son qui vous évoque la pop culture, c'est celui de la dictée magique.
Oui.
Ce petit objet iconique, souvenez-vous.
Et belle sardine.
Ça vous fait quoi d'entendre ça à nouveau?
Ça me ramène en enfance, mais on en avait tous, non?
Oui.
Et puis ce que je trouve génial, c'est que je l'ai toujours et qu'elle marche toujours.
Et elle marche toujours.
Alors que maintenant, le moindre iPhone, il tombe en panne au bout de 3 semaines. Et là, c'est vraiment du costaud, donc je joue de temps en temps.
Vous y avez toujours recours pour vérifier des orthographes.
Oui. Voilà. Des fois, on ne comprend pas ce qu'il dit.
Bon, Valérie, Christian, restons dans votre pop culture, parce qu'il est 16h47, c'est l'heure de votre pop liste. Bon, Fontanus en régie, c'est mort.
Il s'amuse en régie.
Oui, non, mais là, il faut en envoyer tout le temps maintenant. Bon, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Valérie, le livre qui se trouve sur votre table de chevet en ce moment, c'est My Absolute Darling. C'est un roman d'apprentissage de l'écrivain américain Gabriel Talent, publié aux États-Unis en 2017. Alors, Charline, moi, je ne suis pas sorti tout à fait indemne de la lecture de My Absolute Darling. J'en tremble encore, et vous ?
J'ai été traumatisée par cette lecture, je ne vous mentirai pas. Turtle a 14 ans, elle a grandi seule, sous l'emprise d'un père aussi charismatique qu'abusif. Sa vie sociale se résume au collège, et par social, j'emploie un bien grand mot, puisqu'elle repousse tous ceux qui l'approchent. Mais un jour, elle rencontre Jacob, un lycéen qu'elle intrigue et qu'elle fascine. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père. Ce qu'on appelle communément une affaire de survie. Mmh,
Valérie, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Mais avec grand plaisir. Mais
je vois.
Menteuse.
Attendez, nous sommes tous. J'espère qu'il ne va pas lancer un plan.
Non, c'est pas son genre, non. Moment ritualisé, sacralisé, ok. Lecture.
Le moment viendra où ton âme devra être solide et pleine de conviction. Et quelle que soit ton envergure, ta rapidité, tu gagneras seulement si tu sais te battre comme un putain d'ange tombé sur terre, avec un cœur absolu et une putain de conviction totale, sans la moindre hésitation, le moindre doute ni la moindre peur. Aucune division qui risque de monter une partie de toi-même contre l'autre. Au final, c'est ce que la vie exige de toi.
Extrait de My Absolute Darling de Gabriel Talent, le livre que vous avez choisi, Valérie Lessort. Alors pourquoi votre table de chevet a-t-elle tellement apprécié ce livre ?
Ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'est du drame. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas énormément d'humour dedans, mais il y a énormément de visuels. C'est très poétique. Ouais. Et la façon dont est décrit la nature et cet apprentissage d'elle-même, cette quête d'elle-même, et en même temps, elle découvre tous ces éléments qui la soutiennent, qui l'aident à survivre. J'ai trouvé ça bouleversant. Enfin, moi, j'avais plein d'images. C'est, je crois, le nord de la Californie. Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était un poème, quoi, que c'était sublime et que cette horreur était vraiment sublimée par ces descriptions.
Un livre extrêmement puissant.
Oui, très très puissant.
Qu'a adoré, tiens, entre parenthèses, Philippe Dian.
Ah oui.
Il est absolument fou de ce Absolute Darling.
Et Stephen King également.
Et Stephen King, voilà, c'est des bonnes prescriptions. Bon, Christian, allons dans l'univers de Christopher Nolan, car pour le film, vous avez choisi Le Prestige. C'est un film de 2006 avec Hugh Jackman, Christian Bale et Michael Caine. Charline, d'un coup de votre baguette magique, résumez-nous l'affaire, s'il vous plaît.
Londres, au début du siècle dernier, Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués. D'abord amis, ils deviennent de farouches rivaux, bien décidés par tous les moyens à se détruire mutuellement.
Tout grand tour de magie comporte trois actes. Le premier s'appelle la promesse. Le magicien vous présente quelque chose d'ordinaire qui est bien sûr loin de l'être. Le deuxième acte s'appelle le tour.
Il traque votre technique.
Le magicien a le don de transformer une chose ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Alors vous cherchez le secret. Mais en vain. C'est pourquoi il existe un troisième acte, le prestige. C'est celui des rebondissements imprévus, des choses que vous n'avez jamais vues.
On aura bien sûr reconnu la version française, un film américain à l'origine. Le Prestige, c'est donc un film aussi sur la rivalité artistique. Une rivalité artistique qui peut tourner à la folie. C'est cette histoire-là qui vous a plu, Christian ?
Ce qui m'a énormément touché dans ce film, premièrement, le sujet, la magie est un art qui me fascine et qui me touche profondément. Pour moi, c'est un art qui peut servir pour nos métiers de théâtre que nous sommes. Il y a la danse, il y a la marionnette, il y a le chant, mais il y a aussi la magie. Et on m'a fait découvrir, au fil des spectacles que j'ai fait, notamment à la Comédie Française, j'ai rencontré Raphaël Navarro qui m'a appris la magie nouvelle, contrairement à la magie moderne. Et cette magie nouvelle qui est extraordinaire parce que c'est une magie qui est au service d'une histoire. Mm-hmm. Hein, et pas un magicien qui vient et qui fait... Ouais, voilà. Et dans cette magie, il peut y avoir des choses très fines où même le spectateur ne se rend pas compte qu'il y a de la magie, il sait juste qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Et donc, ça amplifie son attention. Je trouve ça extraordinaire.
J'ai un truc pour vous.
Oui, j'adore.
Derek Del Gaudio, ça vous dit quelque chose ?
Non.
Ah là 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 là.
C'est sur... Christian,
allez voir. C'est un film, hein ? Oui, réalisé par Oz.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un film ?
Je ne sais pas. Allez voir ça.
In and Of Itself.
D'accord.
Et ça vient d'être mis en ligne sur... Je ne vous dise pas de bêtises.
Notez-le, vous allez devenir dingue. Écoutez-moi, regardez-moi dans les yeux, vous allez devenir dingue en voyant ça. Si vous aimez cette magie nouvelle là dont vous parlez, Derek Del Gaudio.
Bon, je vous la patente. Et précisons aussi que dans Le Prestige, il y a quand même David Bowie en Nikola Tesla.
Mais j'allais y venir. Bon, d'abord, ça raconte aussi des gens qui vouent leur vie entière et qui ont un secret. Et c'est grâce à ce secret qu'ils font des tours extraordinaires, ouais, sans dévoiler rien dans le film. Aussi, c'est une époque que j'adore. Il y a notamment, comme vous le disiez, ah, ça y est.
David Bowie
ouais, qui joue le rôle de Tesla.
Ouais.
Qui est une époque, le début du siècle dernier. Il y a Jules Verne, il y a Tesla, il y a tous ces scientifiques. J'adore cette.
Tout ce que vous aimez.
Voilà, exactement.
Non, très bien.
Valérie, et c'est sur Disney+.
C'est sur Disney+. Valérie Le Sœur, je reviens à vous. Votre série, en ce moment, c'est la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin. Charline, si on dit que c'est du pur Blanche Gardin, on n'est pas tout à fait à côté de la plaque.
Alors, pas complètement, non. C'est un mockumentaire qui met donc en scène une Blanche Gardin au bout du banc à force de douleurs intestinales et qui décide donc d'arrêter l'humour pour se recentrer sur l'essentiel, à savoir Blanche Gardin.
C'est peut-être le moment pour moi de dire bye bye.
Ah oui, genre tu...
Mais t'imagines demain, tu vas dans le journal, Blanche Gardin arrête l'humour. Qu'est-ce que tu te dis?
Ben je me dis...
Blanche Gardin, cette meilleure version d'elle-même vous pousse-t-elle vers une meilleure version de vous-même, Valérie? Non, oubliez cette question un peu psycho.
Mais tant mieux parce que je savais pas quoi répondre.
Voilà, bah, répondez-moi plutôt sur le choix de la série. Qu'est-ce que vous aimez tellement, Blanche Gardin?
Mais parce qu'elle est surprenante, ouais, et que ça fait tellement de bien. Et c'est marrant parce que les deux premiers épisodes, je faisais oh là là, j'étais un peu déçue. Et finalement, je suis rentrée dedans et elle est toujours là où on l'attend pas. Et elle est extrêmement noire, cette série. Ouais. Bon, elle a toujours ce côté noir dans ses spectacles, mais là, elle va très très loin. Mm-hmm. Et ça fait vraiment du
ça
bien.
Fait du bien.
Mais ça fait tellement du bien d'être un peu choquée, d'être un peu secouée, ouais, de rire de choses. On n'a tellement pas le droit en ce moment. Enfin, moi, ça m'a vraiment... Oh,
Bouleversé. Très bien. Et Christian, terminons cette pop-liste avec votre morceau. Et ce morceau, c'est le Nougat. C'est signé Brigitte Fontaine. C'est un morceau que vous arrivez à déguster sans vous casser les dents. Oui. Mais je vous propose donc de l'écouter, de le mastiquer. Et puis ça fait tout de suite.
Je me réveille avec entrain. Je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain. Et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone. Je fais le 17 je tonne. J'habite au coin de la rue des douches. Y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écrouille-toi, donne-moi du nougat. Écrouille-toi, donne-moi du... Je dis: je vais vous en chercher. C'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain. Galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat.
Brigitte Fontaine en duo avec Mousse et Hakim, enfin en trio donc, puisqu'ils sont trois, le nougat. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette chanson, Christian Eck?
Alors pourquoi? Ben parce que j'adore parce que je vois très bien ce qu'elle veut dire avec le nougat, et en même temps, je vois pas du tout.
Très bien, ça me convient parfaitement. Ça vous convient aussi, Valérie ?
J'ai trouvé ça pas mal comme réponse.
Bon, alors, mais c'est parfait. Merci à tous les deux. Je rappelle.
À la fois, je comprends cette explication et à la fois, pas du tout.
Ouais, oui, on est tous là. Je rappelle que le voyage de Gulliver, ce sera à découvrir à l'Athénée du 11 au 28 janvier avant une tournée jusqu'en mai 2022. Et toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission. Et je signale aussi une autre création de Valérie Le Sort. Le même soir, le mardi, Marilyn, ma grand-mère et moi, au Petit Saint-Martin à 21h. Bravo! Et merci Charline Roux.
Mais merci à vous.
Merci à vous tous et à demain. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Juliette Delperroux qui était à la technique aujourd'hui. Demain, dans l'émission...
Je n'arrive pas à le dire, Vous pouvez pas le dire maintenant.
C'est le lauréat du prix BD FNAC France Inter. Vous n'avez pas entendu son nom?
Non.
Non, bah soyez donc au rendez-vous à 16h04 pour savoir de qui il s'agit.
Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.